là.
Oui, alors donc, on a évidemment le sentiment et les informations dont nous disposons actuellement nous donnent le sentiment que ce tribunal international va être une énorme supercherie. En effet, comment, en fait, pouvoir juger les responsables ou les initiateurs des atrocités qui ont été commises, alors qu'on prétend qu'il n'y a pas des agressés et des agresseurs, hein, mais que tous portent la même responsabilité dans l'ampleur des atrocités qui ont été commises. Ça, c'est déjà un premier point. Donc, pour juger les responsables ou les instigateurs des crimes qui sont commis, encore faudrait-il les identifier pour ultérieurement les arrêter. Et puis, comme il y a un refus manifeste d'identifier les responsables de l'agression, va évidemment conduire inévitablement au refus de les arrêter. Donc, on ne peut pas en plus arrêter des gens avec lesquels on négocie depuis des mois, qu'on reçoit, je veux dire, quasi à sa table. Enfin, c'est presque de la complicité, là. Hein. Bon.
Ce qui s'est passé à propos de Sarajevo, d'ailleurs, on a une belle preuve. On en était à faire des études balistiques pour savoir si la bombe venait bien de je ne sais pas quel endroit. Ça... Il y a un moment donné quelque chose d'assez ridicule, effectivement, dans cette recherche quasi légaliste totale de celui qui a bien pu envoyer ce bus sur le marché de Sarajevo.
Quoi. Oui, on se demande d'ailleurs qui est-ce qui encercle Sarajevo depuis maintenant 2 ans, quoi. Hein, je veux dire, c'est ça la question, quoi. Hein.
Oui, et si je peux me permettre une parenthèse, c'est qu'en fait, ce qui est grave dans ce genre de choses, dans ce genre de recherches qu'on fait, c'est qu'effectivement, on sème la confusion dans l'esprit des gens. Parce qu'aujourd'hui encore, on trouve des gens qui prétendent que quand il y a eu un premier massacre un petit peu identique au mois de mai 92 devant la fameuse boulangerie, eh bien, il y a des gens qui sont intimement convaincus que c'était les Bosniaques qui tuaient leurs propres gens. Donc effectivement, quand on parle de déni, ça aussi, c'est une manière de dénier la réalité de la chose.
Bon, alors, nous, effectivement, depuis le début que nous sommes rassemblés, et puis nous continuons à le demander et à le revendiquer, c'est que nous voulons que ces viols soient reconnus comme crimes contre l'humanité. Alors, pourquoi, en fait, et qu'ils soient jugés comme tels, hein ? C'est-à-dire, pourquoi, en fait, voulons-nous qu'ils soient reconnus comme crimes contre l'humanité et jugés comme tels ? D'abord, parce qu'ils rentrent dans la catégorie des crimes de génocide. Ensuite, qui sont imprescriptibles. Et justement, bon, par rapport à ce que disait Sarah tout à l'heure, on sait très très bien que les femmes, il leur faut un certain climat de confiance, il leur faut déjà la possibilité d'avoir au moins résolu une partie, je veux dire, des problèmes auxquels elles sont confrontées, et avoir établi une relation avec d'autres femmes et d'autres personnes, mais principalement des femmes, pour pouvoir arriver à commencer à oser parler de ce qui leur est arrivé du point de vue de l'agression sexuelle. Et ça peut demander des mois, voire des années. La preuve, c'est qu'on vient juste d'entendre parler de ces 5 millions de femmes allemandes qui ont été violées pendant la dernière guerre au moment du reflux de l'armée russe, et puis de la même manière par rapport à toutes ces coréennes qui ont été violées par les japonais. Donc 50 ans, hein, voyez. Donc juste pour dire qu'en fait, il faut que ce soit reconnu comme un crime contre l'humanité. Et puis la troisième raison, et c'est là-dessus je crois que beaucoup de femmes se sont mobilisées, c'est bien qu'en fait il s'agit bien dans ce crime-là d'un crime contre l'essence humaine, c'est-à-dire contre singulièrement les femmes. Et donc là, je crois que ces crimes engagent toute l'humanité entière et on ne peut pas faire l'économie de, encore une fois, les nier. Mais en fait, c'est exactement dans cette dynamique qu'on se retrouve actuellement. Or, en fait, bon, la manière dont la communauté internationale, je dis bien des gouvernements occidentaux, je ne parle pas des citoyens et des citoyennes, hein, je veux dire, certains se sentent tout à fait concernés par ce qui se passe là-bas, se sont même mobilisés, ont même pris des initiatives tout à fait individuelles à 2-3 personnes dans un coin, tac, elles se lient avec les gens et elles essayent de faire quelque chose à leur propre manière. Mais la manière dont, en fait, les gouvernements occidentaux participent de ce déni, nous semble en fait être le problème majeur de notre époque. C'est-à-dire qu'en fait, bon, maintenant, on ne pourra pas dire, comme pendant la dernière guerre, que nous ne savions pas, mais en fait, nous savons, mais nous ne voulons pas voir. Ce qui est quand même un autre sens. C'est un autre sens auquel nous sommes confrontés. Et je crois que ce sens-là, c'est quelque chose de nouveau et ça a à voir avec la modernité que nous vivons actuellement. Thank you.
Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8. Nous sommes en compagnie de Sarah, Rina et Françoise de l'association Femmes en Noir de Genève. Et nous sommes en plein dans une réflexion très importante qui essaye d'analyser un petit peu les tenants et aboutissants d'une analyse politique de ce conflit, analyse que l'on nous fait guère partager, il faut bien le reconnaître, dans la plupart des médias. Alors, je crois que Rina, tu voulais rajouter quelque chose à l'analyse qu'avait menée Françoise jusque-là.
Dans l'effort de clarification, je crois que c'est important de dire que la guerre a en fait commencé quand certaines provinces ont désiré prendre leur indépendance. Chose qui était en fait prévue au programme, puisque constitutionnellement, il y a déjà bien longtemps, à deux reprises, il avait été prévu qu'éventuellement ces provinces puissent le faire et puissent prendre cette autonomie. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et donc, la première partie de la guerre, c'est en fait les Serbes réagissant très mal à l'autonomie de la Slovénie et de la Croatie, et intervenant avec leur armée fédérale sur la justification qu'ils avaient une minorité serbe là-bas. Donc ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est en intervenant toujours sur le même prétexte en Bosnie-Herzégovine. Et au départ, il faut quand même dire que les Bosniaques étaient alliés avec les Croates contre les Serbes. Cette alliance s'est cassée et comme on le sait, aujourd'hui, les Croates et les Serbes, qui sont en fait les deux forces les plus puissantes, sont presque d'accord pour se dépecer la Bosnie-Herzégovine entre eux. Et donc ce lâchage a été vraiment dramatique pour les Bosniaques, puisqu'il ne leur est resté que des minuscules enclaves extrêmement difficiles à défendre. Et aujourd'hui, on voit donc de la même façon que les Serbes se prétendent pas engagés réellement dans ce conflit, mais que ce sont leurs minorités serbes de Bosnie-Herzégovine qui sont engagées, on sait que c'est un mensonge et qu'ils le sont parfaitement. Et bien, de la même façon, les Croates se prétendent également non engagés dans ce conflit et que c'est seule leur minorité croate en Bosnie qui sont obligés de se battre, pour la clarification.
Oui, alors donc, effectivement, je crois que c'est très important de retracer l'histoire, parce que ça va vite, et puis que cette émission, peut-être que dans deux semaines ou dans trois semaines, elle sera déjà caduque. Donc c'est là où l'historicité du conflit est importante à retracer. Et c'est justement ça qui n'est jamais retracé dans la presse. Et on a extrêmement de difficultés, enfin, à faire passer une analyse autre dans les journaux, parce qu'effectivement, les gens trouvent que c'est très compliqué, puis on nous parle de belligérants, tout le monde a la même responsabilité dans ce conflit, etc. Bon, je sais pas, moi, je prends un cas d'école, comme ça, on est envahi en Suisse par l'Autriche, prenons l'exemple, pour pas prendre la France, en fait, histoire de changer un peu. Eh bien, les Autrichiens envahissent une partie de la Suisse alémanique, les Suisses alémaniques se défendent, et on dit, en fait, les belligérants conflit. Voilà. La Bosnie-Herzégovine est une république qui a été reconnue par la communauté internationale. Elle a des frontières. Je veux dire, c'est comme si on en... Non, il n'y a pas de frontières. D'ailleurs, il y en aura de moins en moins. En fait, il y a des poches comme ça. Bon. Alors, dans ce déni de renvoyer les belligérants dos à dos, c'est vrai que pour les citoyens, c'est pas très très facile de faire le tri, et en particulier par rapport à l'engagement. Par rapport à l'engagement, c'est extrêmement difficile de se situer par rapport à cette guerre. Et en fait, le seul engagement qui est légitime, c'est l'humanitaire. Parce qu'effectivement, c'est l'humanitaire qui a été prôné, par les différents gouvernements occidentaux. Il faut quand même apporter à manger à ces gens, vous voyez. Au moins qu'ils meurent le ventre plein, Alors donc, on a vu une multitude de gens. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très nouveau, en fait, des personnes dans n'importe quel petit village, de n'importe quelle région de l'Europe, qui se lient et qui envoient, qui font des colis, etc., et qui envoient des vêtements, de la nourriture, etc., pour se lier à ces gens-là-bas. Donc il n'y a pas une indifférence totale face à ce conflit. Je pense que ça remue énormément de choses chez les gens. Mais la seule légitimité, par rapport à ce conflit, c'est l'humanitaire.
Mais Françoise, pourtant, ces derniers temps, on a posé des questions, une une question aux gens qui est vraiment d'ordre politique. On s'est amusé à faire des sondages en leur disant « Êtes-vous pour ou contre l'intervention armée, militaire, sous forme de bombardement des forces européennes ou forces occidentales ?» Et ça, je crois que, évidemment, c'est une question éminemment politique. C'est pas simplement, entre guillemets, le simplement, hein, je ne dénigre pas une seconde, l'intervention humanitaire. Alors, je suppose que vous, à l'Association Femmes en Noir, vous vous êtes bien évidemment posé la question, ou on vous l'a posé, si vous, peut-être, vous avez décidé de ne pas vous la poser de cette façon-là. Alors, comment vous répondez à cette chose-là ?
D'abord, il y a une réponse préalable que moi, j'ai envie de faire, parce que, je veux dire, je commence à en avoir ras-le-bol qu'on gouverne un pays à travers les sondages, quoi. Alors, moi, je poserai la question, je veux dire, autrement, ça m'évoque très fortement, est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement ? Est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort ? Quand vous êtes directement concerné, en général, vous êtes pour. Quand vous n'êtes pas vraiment directement concerné, vous êtes contre. Donc ça, c'est déjà la question préalable à laquelle, enfin une réponse préalable à laquelle j'avais envie de donner une tonalité différente. J'en ai vraiment ras-le-bol qu'on considère qu'en fait l'opinion publique, elle est capable de donner son opinion sur n'importe quel événement qui, soi-disant, est censé concerner, je veux dire, le gouvernement, la nation à laquelle elle appartient.
Puis peut-être ce qu'il faut aussi rajouter, c'est qu'on pose des questions aux gens, mais on sait très bien qu'il n'y a pas d'enjeu. Les gens savent bien qu'ils répondent comme ça, justement, pour faire des pourcentages dans un sondage, mais qu'ils savent bien qu'ils n'ont aucun poids décisionnel. Et je crois que dans cette guerre, si on avait réellement pu demander aux gens leur avis, peut-être que le cours des choses aurait pris une autre allure que celle qu'il a pris aujourd'hui. Parce que se poser la question aujourd'hui aux gens, pensez-vous qu'ils fassent intervenir militairement parlant, si on l'avait posé peut-être il y a 2 ans ou une année et demie, les choses seraient peut-être différentes. Mais bon, revenons à vous, la façon dont vous posez la question d'une intervention militaire européenne ou occidentale. Je crois que c'est comme ça qu'il faut se la poser.
Moi, ce que j'aurais envie de dire, pour juste terminer sur l'histoire des sondages, c'est que moi, je trouve qu'à la limite, c'est malhonnête de poser des questions de cette façon-là aux gens. Parce que comment des gens, des citoyens, peuvent se positionner par rapport à une question aussi grave quand on les manipule par ailleurs dans les médias ? Je crois que l'un va pas sans l'autre, j'entends. On ne peut pas mener une presse, les médias avec une telle désinformation comme on l'a vu depuis le début de la guerre, et puis ensuite poser des questions d'une telle ampleur aux gens. Et j'ai aussi un petit peu le sentiment, parfois, quand on a vu les déclarations extrêmement contradictoires de la part des dirigeants de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne, c'est que, en fait, moi, je me demande si ces gens-là non plus ne se dirigeaient pas un petit peu en vertu des résultats des sondages, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que l'opinion publique soutenait ou soutenait pas. Et plus grave encore, c'est qu'une des définitions aujourd'hui de la démocratie consiste quand même à dire que dans les pays démocrates, l'opinion publique pouvait exercer une pression sur les dirigeants. Alors, quand on en est là et quand c'est de cette façon-là qu'on dirige nos États, il y a tout de même de quoi se poser un certain nombre de questions. Bon, ceci étant dit.
Ceci dit, des fois, ça joue un rôle positif. Parce que, par exemple, en ce moment, en Israël, l'armée a un mal fou à accepter de considérer d'éventuellement se retirer et d'éventuellement de faire vider certaines colonies pour que ce soit possible. Et puis c'est le fait qu'il y a 64% de la population qui, elle, y soit favorable, qui va peut-être jouer un rôle pour les pousser à le faire. Sinon, ils ne le feraient peut-être jamais.
Non, puis Sarah, n'oublions pas que quand même, ça fait des années et des années qu'on essaye de créer des mouvements de pression qui fassent pression sur les gouvernements, que ce soit il y a X années en arrière à propos de la guerre du Vietnam, que ce soit sur plein de sujets. On sait bien que malgré tout, on essaye d'utiliser ce mouvement de pression. Mais la sensation que j'ai par rapport à ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on est en train de faire croire aux gens qu'ils pourraient réellement, eux, trouver une solution à une chose qui est tellement compliquée et que les gouvernements ne voient même pas eux-mêmes comment résoudre. C'est ça aussi qui est hallucinant dans cette question qu'on pose aux gens dans les sondages.
Alors moi, il y a une autre chose, en fait, qui me fait réagir. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que cette intervention militaire, elle est la nouvelle version de l'humanitaire. C'est-à-dire, en gros, elle est du même ordre. Quelle est la vision politique qui, en fait, sert l'intervention militaire? Qu'est-ce qu'on veut derrière? On veut simplement libérer Sarajevo, d'accord. Mais il y a toute la guerre qui est encore en Bosnie centrale. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette intervention militaire? D'ailleurs, je crois que c'est d'ailleurs dans ce genre de problème auquel sont confrontés à la fois les forces de l'ONU qui sont sur place et puis l'OTAN, c'est-à-dire, on veut bien faire des frappes aériennes, mais en fait, quelle est la vision politique qui est derrière? Quelle est la solution qui est préconisée derrière ça? C'est le dépeçage de la Bosnie-Herzégovine? le découpage en petites régions avec des petites parcelles, etc. Ou bien est-ce qu'il s'agit de redonner, je veux dire, à la Bosnie-Herzégovine son paysage d'avant la guerre. Donc, bon, c'est pas pour esquiver la question. Hein. On est divisé là-dessus à l'intérieur des femmes en noir. Hein. Mais c'est juste pour dire que s'il y avait effectivement une vision politique claire derrière l'intervention militaire, on pourrait entrer en matière sur cette intervention militaire. Mais moi, j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt d'une gesticulation que vraiment d'une volonté de résoudre le problème.
Sarah, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure suite à ce que je disais.
Oui, moi, je crois assez à cette gesticulation parce que je crois que pourquoi il y a un tel désarroi finalement par rapport à cette guerre. Un désarroi, pas simplement des citoyens qui, eux, font quelque chose, mais il y a aussi un désarroi des hommes politiques, précisément, qui font des déclarations extrêmement contradictoires. Parce que ce conflit-là, au fond, nous a pris de court. Est-ce qu'il nous a pris de court, nous, habitants de l'Europe occidentale? C'est tout de même le monde qui a radicalement changé depuis 89, depuis la chute du mur de Berlin. Et je crois que c'est en fait d'une manière beaucoup plus large qu'il faut réfléchir à ce conflit et à l'image ou au visage que prend aujourd'hui l'Europe. C'est-à-dire qu'on a beaucoup trop rapidement cru que simplement la chute du mur allait nous apporter
le bien-être,
un certain type de prospérité, ou alors en tout cas la disparition des tensions quand même d'un monde bipolaire avec lequel nous avons grandi. On a vécu 40 ans avec ce monde-là, et que ce monde-là tout à coup allait ouvrir une espèce de vision démocratique, on ne sait pas très bien comment, mais enfin les choses en tout cas ne seraient pas comme avant. Et on se rend compte qu'à peine 2 ans plus tard, il y a un pays, celui dont on s'attendait le moins en plus, qui est engagé dans une guerre absolument meurtrière, et qu'au fond, ce qu'on voit, et c'est pour ça que nos hommes politiques sont dans un tel désarroi, alors qu'en fait ils sont payés pour ne pas l'être, c'est que ça montre aussi l'ignorance absolument invraisemblable dans laquelle on a vécu, c'est-à-dire qu'on ne connaît rien de ces pays, on ne connaît rien ni de leur culture, ni de leur devenir, ni de leurs aspirations, parce que c'est vrai que quand on voit la Yougoslavie en 1991, où il y a à l'intérieur du pays des républiques qui demandent leur indépendance et qu'on a en même temps une communauté européenne qui s'y oppose, mais qui s'y oppose d'une manière absolument absolue, il faut tout de même se demander comment on peut concilier des points de vue aussi différents et comment on ne peut pas tenter de se mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre pourquoi il y a ces forces centrifuges qui sont tout à coup si importantes. Et moi, au fond, c'est ça qui m'inquiète tout autant que la guerre, c'est qu'en fait, on a une vision totalement parcellaire du monde dans lequel on vit et que nous avons des hommes politiques qui ne sont plus à même d'y faire face et d'y répondre.
Ceci dit, pour répondre quand même à la question, il est exact que nous sommes divisés par rapport à cette question quand on nous la pose, et ce n'est pas surprenant, puisqu'on sait qu'en fait, nos origines sont en gros dans 2 mouvements. D'une part, le mouvement pacifiste, purement pacifiste, et puis d'autre part, des femmes qui sont originaires ou du mouvement féministe ou de la gauche. Donc c'est évident qu'on va réagir différemment par rapport à cette question. Et c'est la raison pour laquelle nous ne prendrons pas à ce stade de position claire comme femme en noir sur oui ou non intervenir, si ce n'est ce genre de questionnement comme nous faisons ce soir.
Mais c'est tout de même intéressant parce que c'est là qu'on voit que bon, ces 20 ou ces 30 dernières années, dans tout ce qui était le militantisme hein, des années 60, 70, etc., qu'aujourd'hui, on doit bien voir que le pacifisme en temps de paix ou en temps de guerre ne signifie pas la même chose. De même que le féminisme en temps de paix ou en temps de guerre n'est pas non plus la même chose. Et je crois qu'il y a réellement un désarroi chez les gens pour se positionner par rapport à une nouvelle donnée, et ce qui est en train de devenir notre histoire européenne.
Ce qu'il y a aussi d'impressionnant et de différent par rapport à toutes sortes de conflits où en tant que force de gauche et d'extrême gauche, on a essayé d'avoir un point de vue, c'est que pour une fois, on est concerné. On a très souvent donné notre avis ou on est intervenu pour faire pression sur des conflits où nos pays n'étaient pas concernés. Cette fois-ci, on l'est, on pourrait l'être. Enfin, disons, les Français, etc., les forces européennes, la Suisse, peut-être c'est différent. C'est différent. Mais malgré tout, je suppose que les contacts que vous devez avoir avec les féministes françaises ou les féministes allemandes, elles ont une urgence à essayer de résoudre ce type de questions-là par le simple fait que leur pays est immédiatement engagé dans pourrait être immédiatement engagé dans ce conflit.
Je crois que notre pays
ce n'est pas parce que nous n'avons pas des casques bleus en ex-Yougoslavie que nous ne sommes pas concernés. Je crois qu'en fait, les questions que nous nous posons le plus profondément dans tous ces pays, c'est la montée du nationalisme dans notre propre pays, par exemple. La montée du racisme dans notre propre pays. L'exclusion qui est en train de se faire au nom de la construction de l'Europe par rapport aux personnes qui seraient à l'extérieur du premier cercle et puis encore à l'extérieur du deuxième cercle. Je crois que c'est ces questions-là que nous devons nous poser aujourd'hui. Et là, je crois qu'elles se posent exactement de la même façon pour les Suisses que pour les pays voisins. L'exclusion est en train de s'opérer d'une manière aussi rigoureuse dans tous les pays qui nous entourent, inclus le nôtre. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est les glorieux gardes-frontières chassaient les réfugiés juifs qui essayaient de fuir l'Allemagne nazie. Et bien maintenant, nos glorieux gardes-frontières réussissent à refouler 4 000 à 5 000 réfugiés par année qui viennent en gros du conflit de l'ex-Yougoslavie.
Et puis peut-être ce qui inquiète aussi beaucoup notre pays et d'autres, c'est l'idée qu'il y a une place toujours plus importante qui commence à se créer pour des régimes totalitaires, des régimes dictatoriaux.
Mmh.
Ah, Sarah.
Je crois que, oui, d'une manière générale, on le remarque dans la mesure où je crois qu'en Europe aussi, la dégradation de la situation économique est extrêmement grave et qu'effectivement, l'économique prend une ampleur et une primauté sur le politique qui devient quand même assez visible et inquiétante. Mais si on veut se cantonner un peu à discuter de l'espace yougoslave ou de l'ex-Yougoslavie, comme on peut le nommer, c'est vrai que nous avons développé notre réflexion et notre activité sur la Bosnie parce que c'est là que la guerre fait rage aujourd'hui et que c'est là donc on essaie de développer une réflexion. Mais il faut tout de même pas non plus oublier que dans cet espace yougoslave, il s'est créé quand même des pays indépendants, la Slovénie, la Croatie, qu'il y a une république serbe qui joue un rôle tout à fait clé au sein de ce qui est devenu la nouvelle fédération yougoslave et qu'en fait, on se rend compte que les médias et les gouvernants s'intéressent extrêmement peu à ces républiques dans l'espace yougoslave. Et alors, on peut aussi se demander pourquoi. Parce qu'il est tout de même aussi curieux de voir que, notamment en Serbie et en Croatie, se sont mis en place en 2 ans des régimes totalitaires.